La première phase du vol est achevée. Les caméras ont perdu de vue la fabuleuse flèche de métal. Dans la cabine Apollo, l'atmosphère se détend. On se prépare à la longue traversée spatiale. On enlève les casques et les combinaisons pressurisées pour rester en survêtement. Entre Houston et l'engin, qui fonce à travers l'espace, se lient des conversations comme pourraient en échanger au téléphone deux habitants d'une même ville. Écoutez plutôt. Nous sommes au deuxième jour de la mission et les astronautes viennent d'achever leur premier somme dans l'espace.
Apollo 11, ici Houston.
Bonjour Houston.
Les nouvelles du matin vous intéressent-elles? J'ai un petit résumé pour vous.
D'accord, nous écoutons.
La mission Apollo fait beaucoup de bruit en Europe. Dans tous les journaux, le lancement de Saturne tient la première page. Ici, le président Nixon a décidé d'accorder un jour férié aux employés fédéraux en l'honneur d'Apollo. Le vice-président Agnew a demandé, lui, qu'on fasse atterrir un homme sur Mars avant l'an 2000. À part ça, les officiers d'immigration de Nuevo Laredo ont annoncé que les hippies ne pourraient pas entrer au Mexique s'ils ne se faisaient pas couper les cheveux. Voilà.
Merci, Houston.
Parfois, les astronautes décrivent l'étonnant panorama que leur offre la Terre.
Allô, Houston. Ici Aldrin. Je regarde à travers ma longue vue. C'est magnifique. La moitié de la Terre d'un seul coup d'œil. Je vois les îles de la Méditerranée, les Baléares, la Sardaigne, la Corse. Il y a un léger brouillard au nord de l'Italie et quelques cumulus sur la Grèce.
Et par ici, quel est le temps?
Il y a des traînées de nuages sur les îles Caraïbes et une masse nuageuse au large du Groenland. Mais la côte est des États-Unis a bon aspect.
Puis encore les séances de télévision. L'équipage d'Apollo n'est pas fanatique de ces shows. Nous ne sommes pas des vedettes, dit Armstrong. Mais les trois hommes s'y prêtent de bonne grâce.
Nous allons vous montrer notre garde-manger. Comme vous le voyez, nous avons toutes sortes de bonnes choses. Tenez. Voilà une boîte de poulet en sauce. Nous y introduisons trois mesures d'eau chaude par ce petit orifice. Nous mélangeons l'eau au poulet et nous avons un bon poulet en sauce.
Les liaisons se maintiendront avec cette étonnante perfection jusqu'au samedi 19 juillet 11h, moment où Apollo, qui se trouve maintenant dans le champ d'attraction lunaire, va passer derrière la Lune. Pendant une heure et demie, tout contact sera perdu avec les astronautes. Période angoissante. Si tout se passe bien, si l'équipage Apollo réussit sa manœuvre de mise sur orbite lunaire, le contact sera rétabli à 12h46. On attend. Et à 12h47 et 30 secondes.
Allô Houston. Allô Houston. Ici Apollo 11.
Pour la troisième fois, des hommes ont tourné autour de la Lune. Dimanche 20 juillet, la journée historique. Pour les passagers d'Apollo, elle commence à 6h du matin, après de brèves heures de sommeil. Selon le plan de vol, dans 9h, très précisément à 15h16, Aigle doit se poser sur la mer de la Tranquillité. 7h, Aldrin pénètre dans le LEM et commence la longue vérification de tous les instruments de bord. Une heure plus tard, Armstrong le rejoint. 11h51, alors qu'Apollo va commencer sa 13e révolution autour de la Lune, Houston donne le go pour la séparation. La manœuvre doit s'effectuer dans la zone de silence derrière la Lune. Tout paraît OK, annonce Armstrong. ...12h48, ce n'est plus un engin spatial, mais deux que détectent les radars terrestres. La manœuvre de séparation a réussi. L'aigle a des ailes, déclare joyeusement Armstrong. 14h08, le LEM fait fonctionner son moteur de descente pour se placer sur une nouvelle orbite à 15 km d'altitude. 14h51, l'ultime manœuvre de descente commence. 14h55, une lumière rouge, signal d'alarme, s'allume à bord du LEM. L'ordinateur surchargé ne peut effectuer tous les calculs. Houston le relaie aussitôt par un ordinateur à terre et la descente continue. Le LEM n'est plus maintenant qu'à 8000 mètres d'altitude. 15h15, le LEM n'est plus qu'à 600 mètres d'altitude. Dans la salle de contrôle de Houston, où tous les responsables de la NASA sont rassemblés, les chiffres qu'égrènent calmement la voix de Armstrong retentissent dans un silence impressionnant.
Descendons à 2,6 km heure. Avançons. Avançons. Tout va bien. 12 mètres. Nous recevons un peu de poussière. 6 mètres. 2,5 km/h. Glissons un peu à droite. Descendons à 15 cm seconde. Avançons. Glissons à droite. Signal de contact allumé. Moteur arrêté.
Dans la cabine du LEM, une lumière bleue s'est allumée indiquant que les pieds d'aigle ont pris contact avec le sol lunaire. Pour la première fois dans l'histoire, un engin habité venu de Terre s'est posé sur la Lune. La mission d'Armstrong et d'Aldrin est loin d'être terminée. L'exploration du sol lunaire que des millions de terrestres attendent avec impatience et anxiété a été prévue pour le lendemain matin, après une nuit de repos. Mais les deux astronautes sont impatients eux aussi. Ils demandent à Houston l'autorisation d'annuler le repos prévu. Autorisation accordée.
Merci Houston. Nous pensons sortir du LEM dans 3 heures environ. Mais je voudrais vous décrire ce que nous voyons à travers les hublots. Une plaine à peu près plate, criblée d'un grand nombre de cratères d'une quinzaine de mètres de diamètre. Et tout autour, des petits cratères par milliers. Le sol est d'un gris crayeux, qui devient cendré quand les rayons du soleil le frappent sous un angle plus fort. C'est beau. C'est d'une beauté inquiétante. Un peu comme le grand désert des États-Unis.
Et on attend. Enfin, les images tant espérées apparaissent. Des millions d'hommes, le cœur battant, voient Armstrong descendre l'échelle du LEM et marcher sur la Lune. Le spectacle est hallucinant. Hallucinant parce que tout paraît trop facile. Parce qu'on ne peut croire que l'homme qu'on voit ramasser des cailloux sur ce sol blanchâtre se trouve à 380 000 kilomètres, sur cette lune qu'on croyait inaccessible. On ne sait ce qu'on doit admirer le plus. Le courage de l'homme qui annonce d'une voix impassible
« Ici, base de la mer de la tranquillité. »
Ou la minutie des calculs qui ont dirigé à la seconde près le plus étonnant voyage de l'histoire.